J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'une femme. Une femme qui a la voix d'autant plus douce que le monde est dur. Est-ce pour fuir la dureté du monde qu'elle prend sa guitare, ou au contraire pour nous donner la force d'y faire face? Elle chante la joie dans un monde où le bonheur ne semble plus possible, et sur des rythmes qui hésitent entre bossa et reggae, entre saoudade et amapiano, elle nous rappelle au fond que la vie n'est jamais qu'une balade. Elle a grandi en écoutant du funk brésilien et du reggae jamaïcain, Marvin Gaye et Madonna, bien plutôt Iggy Pop et les Stooges. Mais lorsqu'Iggy Pop, l'iguane, chante The Passenger, elle est d'accord avec lui, et cela devient chez elle Passagero. Puisque nous ne faisons que passer, puisque nous ne sommes que passagers sur l'embarcation de l'existence, apprenons à danser avant que la tempête se soit calmée, apprenons à nous sourire et à nous aimer sans avoir à attendre que toutes les conditions du bonheur soient réunies. Cette joie qu'elle propose malgré tout, cette joie qu'elle chante contre, tout contre la violence du monde, cette joie qui nous réunit et nous demande de chanter et de danser, pourquoi nous fait-elle tant de bien? N'est-elle pas à elle seule l'indice de cet élan vital qui traverse nos corps? Ne nous dit-elle pas que nous avons en nous plus de ressources que nous le croyons, que même notre mélancolie, même notre tristesse peut encore se teinter, se colorer de belle humeur? Est-elle politique cette joie? Est-elle un acte de résistance? Peut-on parler, sans abus de langage, de résilience dans la joie? L'idée est tentante, mais en même temps, lorsque nous sommes remplis de joie, c'est comme si nous ne manquions de rien, comme si nous étions capables de dire oui au monde comme il est, de consentir à ce monde même imparfait, comme si nous n'avions au fond même plus besoin de politique. Pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir une chanteuse brésilienne qui vit en France depuis 2006. Son cinquième album, Ginga, est sorti dans le label Piace en mai dernier et elle est en tournée tout l'été, sera à l'Olympia le 12 mars prochain, mais d'ici là, ce matin, Flavia Coelho nous a rejoint sous le soleil de Platon dans la caverne de France Inter pour nous aider à réfléchir à cette belle question: pourquoi la joie nous fait-elle tant de bien?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Flavia Coelho.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien.
Alors je précise tout de suite que vous êtes venu avec votre guitare. Vous allez nous faire un cadeau bientôt, dans quelques minutes, un sublime live dans lequel il est question de votre mère.
Entre autres, ouais. Cette chanson elle s'appelle Mama Santa et est un recueil de phrases que j'ai entendues toute mon adolescence par les femmes qui m'entouraient. En fait.
Donc il y a aussi un autre titre, Nordeste, je crois, où il y a comme ça plein de... C'est pas le titre exact?
Nordestine, c'est parfait, vous dites très bien, c'est un bon accent.
Où il y a comme ça différents visages de femmes et de propos de femmes puissantes aussi. Il y a quelque chose d'un peu féministe finalement dans cette façon d'aborder ces visages de femmes.
Complètement. En fait, Nordestine, c'est aussi le nom des femmes issues du Nord-Est, cette région du Nord-Est du Brésil, qui est pour moi une région qui est la vérité. Toutes ces femmes, une bonne partie de ces femmes ont migré au sud du Brésil pour construire les grandes villes du Brésil, et on parle très peu de ces femmes-là. On parle beaucoup de la girl from Ipanema, donc j'ai envie de parler de la Nordestine, voilà.
Voilà, alors vous, votre mère, donc, que vous allez chanter notamment dans ce live, vous l'avez perdue à 11 ans, et vous avez aussi connu d'autres difficultés, et c'est pourquoi dans votre œuvre, donc là vous êtes à votre cinquième album, il y a quand même cette thématique de la résilience, du courage que vous mettez vous-même en avant, mais tout en l'abordant avec beaucoup de joie, beaucoup de belle humeur, beaucoup d'allégresse. Est-ce qu'au fond tout ça n'est pas assez militant? Est-ce que c'est pas une façon de dire que l'adversité au fond n'est pas un obstacle à la joie?
C'est complètement ça, je pense. C'est au fur et à mesure du temps que je me rends compte en fait que cette joie là est un coup de pied à tous ceux qui essayent de nous dénigrer, à tous ceux qui essayent de casser notre morale. Je pense que nous au Brésil depuis très longtemps on vit dans des difficultés soit sociétaux, politiques, bref, et cette manière d'avoir cette joie vraiment, de l'entretenir sans arrêt, c'est justement pour montrer qu'on peut continuer de se battre malgré la douleur.
Ouais. Ça c'est votre cinquième album, donc Ginga, c'est comme ça qu'on le prononce.
Ginga.
Votre quatrième album, donc le précédent s'appelait NDA, il était plus directement politique, plus engagé, notamment contre Bolsonaro. Il y avait plus de colère, mais il y avait déjà quelque chose de très joyeux. Est-ce que vous diriez qu'il y a quelque chose de politique au fond dans cette joie qui persévère?
À nouveau, je me répète, c'est quelque chose que je ne me rendais pas compte, en fait. Ouais. C'était une envie de continuer d'affronter les adversités malgré tout. Et j'essaie de mettre cette joie politique, on va dire, en place tout le temps dans ma vie, en fait. C'est-à-dire que même dans mes textes, ils peuvent être très durs parfois, mais il y a toujours une lumière à la fin du tunnel, un espoir, quelque chose qui dit on va s'en sortir quand même. Je pense que c'est ça qui nous maintient tous debout.
Alors, vous avez ce mot de résilience, il est dans la chanson Mama Santa.
Tout à fait.
Mais on pourrait l'entendre de deux façons.
Tout à fait.
Vous allez me dire lequel sens vous parle le plus. D'ailleurs, on peut l'entendre par rapport à des drames qu'on a vécus plus ou moins violents. Il y a toujours cette idée qu'on peut trouver de la ressource en soi. Mais alors, il y a deux grandes idées. La première idée, c'est que la résilience, c'est la capacité qu'on a de prendre un nouveau départ, presque d'appuyer sur la touche reset, en fait d'effacer le passé et de trouver de la ressource pour un redémarrage. Et puis il y a l'autre idée, que moi je préfère, mais c'est juste personnel, qui est que c'est pas un nouveau départ, c'est pas une nouvelle vie, c'est une manière de ressaisir le passé, quelque part de l'accueillir et de faire avec. Laquelle des deux significations vous touche le plus ?
Puisque nous sommes dans l'agora du Platon,
ouais.
Je pense que la deuxième m'approche un peu plus. En fait, quand je parle de résilience, ce n'est pas de se courber les chines et laisser tout passer. En fait, c'est cette résilience, ouais, justement, de prendre son passé. Qu'est-ce que je veux faire de ça, en fait ? J'ai deux choix. Soit tomber, soit continuer de marcher, continuer, ouais, d'avancer. Donc, c'est de cette résilience-là que je parle, vraiment. De prendre ce paquet, de prendre cette valise pleine de choses, de, ouais, se passer, et essayer de la transformer, d'essayer de la rendre de plus en plus légère pour la porter.
Ah ouais, il y a une phrase de Nietzsche qui va beaucoup vous plaire, vous la connaissez peut-être, qui dit « Tout ce qui est lourd doit s'alléger, tout corps peut devenir danseur, tout esprit oiseau ». Et c'est ça la métaphore que vous venez d'employer avec ce sac très lourd, et il ne faut pas le jeter, il ne faut pas s'en débarrasser. Vous avez dit le transformer, vous avez dit l'alléger. Je vous propose d'écouter Boris Cyrulnik parler justement de ce concept que vous allez tout à l'heure nous chanter.
C'est un mot français qui est quotidiennement appliqué dans les milieux de la métallurgie. Mmh. Ça veut dire qu'un métal garde sa structure ou reprend sa structure, quelles que soient les pressions ou les coups du milieu. Donc ça sert de métaphore en psychologie ou en sciences sociales pour dire qu'une personne blessée peut reprendre son développement malgré un traumatisme de la vie, c'est-à-dire que sa vie ne s'arrête pas au traumatisme, il peut reprendre une autre forme de développement après le traumatisme. Les hommes ont le génie du malheur, hein. Mmh. Les traumatismes ne manque pas dans une vie humaine, puisque 50% d'entre nous ont été ou seront traumatisés au cours de leur vie. 25% d'entre nous auront deux traumatismes graves au cours de leur vie. Et ceux qui auront la chance d'échapper aux traumatismes n'échapperont pas aux épreuves de la vie.
Alors Flavia Coelho, c'était marrant de vous regarder pendant que Cyrulnik parlait, parce que vous avez l'air d'accord, vous avez l'air en même temps un peu amusé. Qu'est-ce que vous ressentiez ?
Parce que ce sont des paroles que j'essaie d'utiliser tout le temps dans ma vie comme un mantra, en fait, de me dire que les traumatismes, il y a aussi du bon, malheureusement, dans le traumatisme. Parce que, par exemple, quand je perdis ma mère, j'avais 11 ans, bien sûr, j'étais un enfant, c'était trop difficile, ouais, au moment même. Mais en même temps, j'ai grandi 10 ans. Quand, je pense que cette impression-là qu'on a quand on perd un parent, on vieillit de 10 ans, on est obligé de grandir, on est obligé de se débrouiller et d'affronter la vie. Et je pense que c'est ça, en fait. Peut-être que je n'étais pas du tout, je n'aurais jamais été cette femme si je n'avais pas perdu ma mère, en fait, à l'époque précise. Donc, je vis avec ce traumatisme, j'ai grandi, il s'est transformé en musique, en voyage, en envie de partage. J'ai eu envie de continuer, de passer, voilà, tous les messages que ma mère m'avait montrés quand j'étais petite.
Donc, elle était maquilleuse, coiffeuse, dans un cabaret. Et elle est morte de quoi ?
Elle est morte de sida dans les années 90.
Et vous dites beaucoup qu'elle vous a laissé des choses et que c'est ces choses que vous faites vivre. Elle vous a laissé quoi ?
Elle m'a laissé surtout ne pas avoir peur des gens, de l'autre.
Ouais.
Elle m'a surtout appris à être vraiment empathique, à essayer d'aller vers tout le monde, de parler à tout le monde. Elle m'avait dit aussi que c'était important d'apprendre à parler des langues différentes, justement parce qu'il fallait que je voyage beaucoup pour faire des rencontres. Donc elle me disait, apprends à parler plusieurs langues, comme ça tu vas pouvoir te communiquer avec les gens.
C'est dingue. Et puis quand vous étiez toute petite, je crois que vous l'accompagniez, vous aviez 5, 7,
tout
8 ans, dans son salon quoi, de coiffure.
Salon de coiffure, ouais. Elle avait un tout petit salon de quartier, justement, où elle accueillait à l'époque ce qu'on appelait la communauté GLS, c'était même pas la sigle LGBTQ+, ouais, comme aujourd'hui. Donc voilà, chez nous, il y avait toujours des gens, voilà, qui venaient et qui ne se posaient pas de questions, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils étaient. Pour nous, c'était juste des gens, des êtres humains qu'on rencontrait, que parfois il y avait des histoires très tristes, mais aussi des histoires heureuses, on s'est changé beaucoup de choses et j'ai appris beaucoup de choses avec ces gens-là.
C'est très émouvant de vous écouter parler de tous ces gens qui passaient dans le salon de coiffure de votre mère, donc maquilleuse, coiffeuse, dans un cabaret. Et bien justement, je propose qu'on écoute un premier extrait d'une nouvelle chanson, Passaggero.
Só dança no centro, sem falsas modéstias, acende o evento. Nas rodas latinas, sedutor rockstar. Visita veredas e noites extensas, histórias e enredos no resto.
dança. Quem dera você comigo aqui e agora no meu sofá.
Trop beau, hein?
Merci.
C'est un extrait de votre cinquième album, qui s'appelle Ginga, qui est sorti en mai. Vous êtes en tournée tout l'été, justement, pour porter cet album. Je vais donner déjà quelques dates. Très bientôt, dans quelques jours, vous serez à Agen, le 3 août, au Festival des Arts de la Rue. Puis le 5 août à Bastia, au Festival Porto Latino. Je rappelle la date, chers auditeurs et auditrices, du 12 mars 2023 à l'Olympia. Il faut que demain, toutes les places soient vendues. Enfin, en fait, j'ai pas d'inquiétude pour vous. Votre dernier album s'appelle Ginga. Ça veut dire quoi ?
Ginga, ça veut dire jeu des jambes. Et Ginga aussi est une manière d'être au Brésil. Quand on dit de quelqu'un qui a de la ginga, ça veut dire qu'il sait bouger, qu'il sait bouger les lignes.
Ah ouais, mais ça veut dire aussi qu'il a de la ressource, en fait.
Tout à fait, bien sûr.
Ah, c'est marrant, ouais.
Mais oui, mais la ginga, c'est aussi, parmi d'autres significations, un des mouvements de la capoeira, qui est cette fameuse art martial qui est un peu cachée par la danse.
Donc en fait, c'est quoi ? C'est une habileté ? C'est quoi ?
C'est aussi... une manière de se débrouiller dans cette vie assez bizarre.
Ah oui,
voilà. Il faut avoir de la ginga.
Ah, c'est une métaphore.
C'est très philosophique, d'ailleurs.
Ouais,
je tiens à le dire.
Ça me plaît, ça. On apprend quelque chose sous le soleil de Platon. Chers auditeurs, chères auditrices, développez la ginga cet été. C'est pas simplement de la danse, c'est une attitude face à la vie. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est aussi le fait de se débrouiller avec les atouts qu'on a, de faire avec ce qu'on a, quoi.
Complètement. Il faut toujours essayer de faire avec ce qu'on a et essayer de gagner un maximum de points dans la vie, ce que je dis, avec nos défauts. Il ne faut pas les nier, les cacher, etc.
Ouais.
Il faut faire de ça une force. C'est ce que j'essaie de faire toujours, en fait, de mes défauts.
Mais vous avez toujours été positif comme ça, ou alors vous l'êtes devenu ?
C'est quelque chose qui se travaille très durement tous les jours, en fait. Depuis très petite, justement, quand à partir du moment où ma mère est partie, j'ai eu un cousin qui m'a initiée un petit peu dans tout qui était ce qu'on appelait à l'époque, on appelait toujours le développement personnel, avec des petits livres, etc.
Ouais.
À l'époque, c'était de l'histoire sous le subconscient, etc. J'étais un enfant, j'avais à peine 12 ans, mais j'étais initiée là-dedans. Et ça m'a beaucoup aidée, vraiment, et bien sûr, différentes religions, puisqu'au Brésil, on est très religieux quand même, donc j'ai passé par le catholicisme, le protestantisme, après les religions des matrices africaines.
Bref, vous avez métissé les religions.
Ah ouais, je les ai toutes faites aussi.
Au le syncrétisme de
Flavia Coelho. Carrément, donc je les lis, la Bible, l'Ancien Testament, Témoin de Jéhovah, etc.
Tout, quoi.
Tout.
Ouais.
Je les ai toutes faites pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'était la mort, en fait. Comment j'allais me débrouiller avec cet énorme sujet. J'étais quand même un enfant, je passais
bien
à l'adolescence, je perds une maman. Quand on a une fille et qu'on perd justement ce lien avec la mère, qui est le lien le plus féminin que nous avons, comment on se construit à nouveau. Donc, grâce à ces débuts, en fait, de lecture sur le développement personnel, je commençais à comprendre qu'il y avait moyen de chercher en moi cette ressource pour pouvoir vraiment devenir un être humain entier, à part avec mes défauts et mes qualités, et pouvoir continuer d'affronter ce qu'il y avait encore, qui allait encore arriver dans ma vie, bien évidemment.
Alors vous dites, grâce à ces lectures, grâce au syncrétisme religieux, grâce au développement personnel, mais grâce à la musique aussi.
Bien évidemment.
Dès 14 ans, vous étiez sur scène.
Tout à fait. Dès 14 ans, je réponds à une annonce de casting qui cherche une chanteuse. Je chantais faux comme Mika Sarol, mais je pense que j'avais... c'était très, très, très difficile.
Ça nous rassure, on peut apprendre à chanter.
Mais bien sûr, on peut apprendre à tout faire. Là, ça fait un an, je me suis mis au trombone et je commence à faire mes premières notes. Donc, à la preuve, c'est possible. J'ai 43 ans et je lâche jamais rien.
Et bien, justement, puisque vous avez commencé la scène à 14 ans, on va vous écouter chanter cet extrait Mama Santa qu'on évoquait tout à l'heure. Et pendant que Flavia Coelho, vous nous faites ce cadeau du live, pendant que vous vous installez, moi, je vous ai prévu un petit cadeau pour vous et pour toutes les personnes qui écoutent. C'est Pessoa qui parle de la saudade. Puis en effet de fanfare le fracas, entier des chaleurs chaloupants se déverse. Pessoa, je répète, au souffle de torpeur du soir qui s'attarde. Et il est de brumeux désenchantement, de l'enchantement attaché aux pensées, chez les saints lents des recoins et des rechants, au coin nimbé de champs bénis des couvents, lamento car intense, lent et tantôt, tellement qu'ils enchantent les vents attentifs. C'était Pessoa, et maintenant c'est vous, Flavia Coelho.
Caminhei a duras penas na ladeira da ilusão. Um dever, questão de honra, sobreviver pra que perder a razão? Eu me prometi nunca mais. Adicionei ritos e lendas, neutralizei marcas e fendas, defini um mundo novo à base de oração. É, vamos. Oh, uma alma santa aparecida da providência. Oh, uma alma santa, la madre mia, resiliência. Meu distúrbio paga o preço, deambulação mental, viu? Vamos apagar velhos costumes, me desfazer. Pretendo me perdoar, quem sabe poder ser feliz. Cicatriza cada ferida, elimina dores sofridas, define um mundo novo à base de oração. É, vamos. Oh, uma alma santa aparecida da providência. Oh, uma alma santa, la madre mia, resiliência. Oh, uma alma santa aparecida da providência.
Bravo, c'était sublime. J'en profite pour rappeler vos dates de concert. Vous êtes très bientôt le 3 août à Agen au Festival des Arts de la Rue, le 5 août au Festival Porto Latino à Bastia, le 12 août à Budapest, le 22 septembre à Nice, à Nîmes, au Festival Jazz à Nîmes. Merci beaucoup Flavia de vous rasseoir. Le 11 octobre 2024 à la Fiesta des Suds à Marseille, grande date. Le 14 octobre au Nancy Jazz Pulsation, le 6 février à l'ancienne Belgique Bruxelles, notamment pour le public de Lille et de ses environs, et le 12 mars 2023 à l'Olympia à Paris. Pardon, le 12 mars 2025, évidemment, car nous n'allons pas revenir en arrière, à l'Olympia à Paris. Merci beaucoup, c'était trop beau.
Obrigada, merci à vous.
C'est, si vous chantiez comme une casserole à 14 ans, bah ça a bien changé. On a entendu plein de choses. Hein. On a entendu plein de choses que vous avez évoquées auparavant. On a entendu cette jinga, peut-être, cette façon de s'en, on le dit comme ça, jinga.
Mm-hmm, tout à fait,
cette façon de s'en sortir, quelle que soit la situation. On a entendu ce mot résilience. Comment vous le prononcez ?
Résilience.
Et parfois, vous savez, la musique permet de dire des choses que la théorie échoue à dire. Cette espèce de joie qui est possible quand le bonheur ne l'est pas, est-ce que parfois vous sentez que vous la déclenchez chez les gens, même sur scène?
Complètement, ouais. C'est vraiment quelque chose qui est lié directement à la musique et aussi aux enchaînements harmoniques, on va dire ça, avec Jinga par exemple, avec mon producteur Victor Vague, nous avons écouté beaucoup de musique classique, ça veut dire pièces de musique classique, Beethoven, Mozart, Dvorak, Rachmaninov, Chopin et tout ça, parce que je voulais comprendre justement comment est-ce possible que 300 ans, 400 ans après, les gens ils arrivent toujours à s'émouvoir avec ces pièces-là. Ce sont des titres quand même qui durent très longtemps, qui sont des pièces de 7, 8, 10, 11 minutes, et comment ça se fait que juste pendant depuis tout ce temps, les gens ils arrivent encore à s'émouvoir avec ces chansons-là. Donc c'est vraiment une histoire d'enchaînement harmonique. Donc il y a une histoire de mathématiques, il y a une histoire de mathématiques musicales qui fait qu'on peut éveiller des émotions par la musique. Donc moi j'ai essayé déjà de faire ça depuis maintes années avec mes disques précédents, mais avec Jinga, je pense qu'il y a encore plus. Il y a vraiment cette recherche de voir quel enchaînement d'accords peut faire éveiller des émotions, le sourire, l'envie de s'émouvoir, de pleurer, l'envie de la chair des poules, vraiment de des choses comme ça.
Mais d'ailleurs, dans votre musique, c'est pas, enfin, il y a une note évidemment de musique brésilienne, mais pas seulement. Et c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Vous avez inventé un style qui s'appelle le bossa muffin, une sorte de syncrétisme entre le reggae muffin et la bossa.
La musique traditionnelle brésilienne et tout ce qui est musique actuelle. Donc, quand on dit bossa, on évoque la musique du pays, ouais. Samba, pagode, bossa nova, et muffin, reggae, raga, rap, voilà tout ce qui est dans l'actualité. Donc, tradition plus actualité égale à bossa muffin.
D'ailleurs, il y a un moment, vous avez fait un duo avec Gaël Faye et vous allez un peu vers le rap. Je propose qu'on écoute cet extrait.
On danse nos solitudes sur des rythmes binaires. Tous par terre, le cerveau dans la brume, il y a de l'humour dans l'air. Dans ces instants, bref, c'est le temps qu'on déjoue. Donc dis-moi à quoi on joue avant les lueurs du jour.
É que a situação aqui tá difícil. Faltando poesia, homem nenhum querendo compromisso. Pra trocar uma ideia, na moral é suplício. Cara que fala em poesia, estava esperando por isso. Na pista a gente dança, a temperatura é perfeita. É cedo, é meia-noite, a lua cheia. O seu perfume é da China ou de Paris. Se torce pro PSG.
Rafael Coelho, c'est votre duo avec Gaël Faye. Vous en avez aussi fait avec Ibrahim Malouf, avec Tété. On voit comme ça que vous avez différentes cordes à votre arc. Je profite de votre présence pour dissiper peut-être quelques malentendus. J'ai l'impression que, enfin, j'ai lu des théoriciens disant que la bossa nova, au fond, c'était pas si présent au Brésil. C'était surtout, ça avait surtout été exporté et que finalement au Brésil, c'était pas vraiment la musique traditionnelle nationale. Et que c'était une musique d'exportation,
c'est
surtout.
C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est pour ça que quand j'ai commencé à faire de la musique, mes premières chansons ici en Europe, la bossa nova n'était pas du tout au goût du jour, parce que c'est une musique des années 50. Donc, je suis née en 80, 30 ans après. Donc, ça allait être compliqué quand même de reproduire quelque chose que je ne connaissais pas. Et surtout que c'était une musique complètement liée aux élites brésiliennes. Copacabana, Ipanema, Leblon. Alors que moi, je viens des quartiers. Une bonne population, partie de la population vient des quartiers, etc. Donc, il n'y avait aucune raison que je reproduise une musique qui ne me correspondait pas directement au moment de créer ma propre musique.
Mais alors, en revanche, pour qu'on comprenne, en fait, la musique, cette bossa nova, c'était une musique d'élite.
Mais
la musique populaire, c'était quoi, du coup ?
La musique populaire, ça reste le forró, la samba, le pagode, les musiques, ce qu'on appelle la MPB, la musique populaire brésilienne. En effet, la bossa nova était une musique très blanche, vraiment une musique d'élite, de quartier très chic. Et qui, d'ailleurs, je tiens à le dire aussi, que c'est quand même la musique qui m'a nourrie lorsque je suis arrivée en France, parce que c'était la musique quand même qui était plus écoutée ici en Europe, la plus identifiée, et que celle que lorsque j'ai chanté dans les cafés, que j'ai passé le chapeau, tout le monde la connaissait.
Oui, parce que c'est vrai que quand vous êtes arrivé en France, donc en 2006, vous avez chanté dans le métro à Saint-Ouen, dans un bar. Ça n'a d'ailleurs pas marché tout de suite, votre premier album. Par contre, vous aviez un succès sur scène.
Si, le premier album, il a été pris, en fait.
Comment il s'appelle ?
En fait, ça s'appelle Bossa Muffin. Ce que s'est passé,
c'est que... Je sais qu'il a été pris, mais j'ai lu que ça avait moins marché que votre succès sur scène, en fait.
Oui, ce que s'est passé, en fait, à l'époque, c'est que les maisons des disques ne voulaient pas de ce disque. On avait fait un tour de
maisons... Ah voilà, j'ai pas rêvé.
Vous n'avez pas rêvé, non, pas du tout. Vous êtes quelqu'un de très vrai. Et donc, les gens, au départ, ils disaient, mais c'est quoi ce disque ? Aujourd'hui, les chanteuses brésiliennes, c'est la fleur sous la tête, le pied nu, la guitare à la main, alors que moi, j'avais pas que ça, j'avais d'autres choses à proposer. Donc, c'est pour ça, en effet, qu'il y a ce bruit de couloir. C'est qu'il n'y a aucune maison de disque voulait de moi. Et lorsque j'ai trouvé une maison de disque, et qu'on a eu les premières chansons, on a eu tout de suite une chanson radio, et après le live, on a fait le reste.
Et alors, Radio Nova vous a beaucoup porté au début, non ?
Tout à fait, Et France Inter aussi, bien sûr, avec Monsieur Chérès.
Comment puis-je parler d'une radio concurrente en oubliant France Inter ? Et alors, vous travaillez beaucoup sur cette notion de métissage, de mélange. Je vous propose d'écouter Édouard Glissant parlant justement de ce que c'est que le multiple et comment on fait de la beauté avec du multiple.
D'une langue à l'autre, nous saisissons les nuances et les variations du réel sur la terre entière. Et nous saisissons qu'il n'y a pas de langue supérieure, de réel supérieur, que toutes les langues sont des langues du rapport avec le monde. Et on peut comprendre que quelque chose de nouveau se passe aujourd'hui. La condition même des humanités fait que je m'exprime dans ma langue de manière multilingue. C'est-à-dire que quand j'écris dans ma langue, d'expression, cette langue est déjà multiple en moi.
C'est beau, non, Édouard Glisson?
C'est très beau, d'ailleurs, je suis complètement d'accord. J'ai écrit dans les deux langues. Bah, j'écris beaucoup mes disques en portugais, bien sûr, ouais. C'est la meilleure manière pour m'exprimer. Mais je rêve en français, je dors en
vous
français,
rêvez
je lis
en
français, bien sûr.
Ah ouais, ouais, ouais. Et vous pensez en...
Je pense en français en ce moment. Voilà, maintenant que je suis avec vous, je pense en français. J'essaie de faire le moins de fautes possible.
Alors revenons en 2006, vous arrivez en France, comment ça se passe?
Alors j'ai peur, mais j'arrive quand même le jour de la fête de la musique, donc j'ai pris ça comme un signe, voir un signe dans le lac, tellement
juin,
était grand.
Ouais.
Ouais, le 21 juin, il faisait très très beau, j'avais plein de rêves en tête, tout ça en rond poche, une petite veste pour affronter l'hiver.
Ouais.
Et cette envie de faire un disque, j'étais chanteuse au Brésil depuis moins d'années, mais je n'avais jamais écrit mes propres chansons.
Et vous aviez directement l'envie de faire un album, il faut dire que vous avez fait beaucoup de scènes au Brésil déjà, mais finalement pourquoi la France?
Je suis venue une première fois en 2002 avec une compagnie de carnaval brésilien. J'ai eu un coup de foudre pour la ville de Paris, vraiment. Tous les artistes que j'aimais, ils avaient vécu ici une période de leur vie. Et c'est exactement ce que j'ai cherché en fait. J'ai cherché un lieu où la culture elle, soit vraiment à son apogée, où je puisse... aller voir un maximum de concerts, et c'était ça en fait. Quand je suis arrivée, quand je prenais le métro, je voyais toutes ces affiches de pièces de théâtre, de spectacles de danse, de concerts musicaux, et tous affichés complets, alors que c'était des gens que j'avais jamais entendu parler de ma vie. Donc je me suis dit, mais c'est quand même ces gens ici, ils ont une curiosité énorme pour la musique, pour tout ce qui est culturel. Donc je me suis fait la promesse en bas de la Tour Eiffel que si un jour je faisais un album, je serais de retour, et c'est ce que je fais en 2006. Je suis
d'accord.
Retournée.
Et d'ailleurs, je crois avoir compris que la chanson De vous à moi, dans votre cinquième album, donc Ginga, qui est sorti en mai, c'est un peu un hommage à la France.
C'est marrant parce que j'avais d'abord pensé ce titre, vraiment, c'est la première fois où j'écris un texte entier en français, et j'avais d'abord vraiment pensé à une histoire de couple, parce que en fait, je commençais à écrire des phrases comme ça,
ouais.
C'est une période que j'avais vraiment commencé à beaucoup lire de littérature française, etc. Et je me disais, tiens, on parle beaucoup d'amour en France, mais on fait très peu de déclarations à vive voix, en fait. On les fait souvent par la littérature, mais jamais à vive voix. Donc, je vais essayer d'écrire quelque chose, comment je ressens tout ça. Donc, d'abord, j'avais pensé à une histoire de couple, et après, c'est des amis francophones qui m'ont dit, mais en fait, tu parles de ton public. Et bon, maintenant, je laisse chacun faire son interprétation de la chanson. Je pense que c'est ça, l'art.
C'est un peu une réponse de Normand, hein, pour le coup. C'est très français.
Ça y est, je suis intégrée.
Mais alors, vous avez dit, j'ai lu des textes français. C'était quoi, par exemple?
Ah, ben, j'ai lu beaucoup Flaubert. Je lis de Annie Arnaud, je lis Romain Gary, là je lis encore Yasmine Zayer, voilà, j'essaie Édouard Louis, je sais pas, dès que je prends quelqu'un, Daniel Laferrière, dès que je prends un auteur, j'essaie de lire un maximum tout son ouvrage pour essayer vraiment de rentrer dans la tête de cet auteur pour comprendre comment il arrive à faire ça.
Ouais, Daniel Laferrière d'ailleurs qui a été à votre micro, on a fait une super belle émission, il nous avait expliqué justement qu'il était, je crois, un peu un passagero. En fait, passagero, ça veut dire qu'on se sent à la fois bien partout et jamais vraiment chez soi, c'est ça?
C'est ça, c'est exactement ça. Passagero, c'est presque... Il y a un lien aussi avec Transfuge de classe,
ouais,
j'ai
ouais.
l'impression, hein, cette chanson Passagero, que c'est un petit peu là où j'en suis, j'ai l'impression. En fait, j'ai toujours eu envie de culture, d'apprendre,
ouais.
de lire, de connaissances, parce que c'est quelque chose qui était très éloigné de mon monde. Donc, plus j'avance dans la vie, plus j'essaie vraiment de me renseigner, de devenir quelqu'un de mieux dans ma tête, dans mon esprit.
Vous pensez qu'Edouard, lui, a de la ginga?
Ah, je pense bien qu'Edouard, lui, a de la ginga, parce que pour faire affronter tout ce qu'il a affronté jusqu'à aujourd'hui, il faut avoir de la ginga. Et pareil, je peux embrasser Dany Laferrière, je vous adore.
Voilà, Dany, déclaration donc, de vous à moi, de Flavia Coelho. Alors, à l'origine de ce cinquième album, il y a une phrase, alors je ne sais pas où vous l'avez entendue, ou alors si vous l'avez écrite quelque part, « Nous vivons nos 20 premières années, puis les 20 suivantes servent à comprendre les 20 premières. » Flavia Coelho, vous avez quel âge?
J'ai 43 ans.
Donc on est pile, vous avez digéré les 20 premières années, et vous avez compris quoi alors?
J'ai rien compris encore, d'ailleurs c'est pour ça que je fais des disques,
ouais.
et je continue à lire de la philo, et à aller chercher dans les ouvrages littéraire, comment avancer, comment subir toute cette détresse laquelle nous vivons dans ce monde d'aujourd'hui, en gardant la joie, en gardant le bonheur.
Vous n'avez rien compris, mais c'est très socratique. On est sous le soleil de Platon et de Flavia Coelho et on va écouter Nino Ferrer.
Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la rue Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer pour si peu de temps, et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour et toi tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire et je n'y comprenais rien. Taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la Rua Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé.
C'était évidemment le grand Nino Ferrer et la sublime Rua Madureira.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin. Sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Flavia Coelho sur France Inter et ça tombe bien, vous disiez avant qu'on écoute Nino Ferrer, je ne comprends rien à ma vie, même si j'ai 43 ans, et c'est ce que dit aussi Nino Ferrer, et je n'y comprenais rien. Mais alors, j'aurais profité de votre présence pour chercher un peu la petite bête. En fait, si je vous écoute, vous nous avez dit que finalement, cette bossa que nous on imagine du fin fond de notre France être la musique populaire, en fait c'était plutôt le son de l'élite, la musique populaire vraiment étant ailleurs, la samba par exemple. Mais donc quand on écoute quelqu'un comme Nino Ferrer ou dans un autre genre, Bernard Lavilliers, on a l'impression qu'ils vont prendre ces sons dans la culture populaire brésilienne, mais en fait non, ils prennent le son de l'élite. Est-ce qu'on n'est pas en fait dans un cliché qui quelque part, malgré la beauté du titre, rate quelque chose de la vraie musique populaire brésilienne?
Je pense que ces deux artistes-là, en effet, ils sont allés chercher le Brésil qu'ils connaissaient et qui, je vais bien croire qu'une fois sur place, ils ont bien compris que c'était pas vraiment ça, mais ils sont quand même entourés de personnes qui les allaient amener cet air populaire. Mais en même temps, quand je pense à la France aussi et que je pense à Piaf, au Brésil, nous avons l'impression que la musique de Piaf, c'est quelque chose de très élégante, etc., alors qu'elle venait aussi de Faubourg de Montmartre.
Tout à fait,
quand on reste dans les clichés, il faut quand même se rendre sur place pour se rendre compte pourquoi ils sont là.
Alors Flavia Coelho, revenons à votre travail. J'ai adoré un titre particulier qui s'appelle
T'es mon tout,
ouais. Sur l'album Sono Real. C'est votre...
C'est mon troisième album, en effet.
On va l'écouter bientôt, mais avant ça, je voudrais lire vos paroles sans la musique. Alors, c'est un exercice dur, mais je l'ose parce que je trouve ça très bien écrit. Et puis après, quand on va l'écouter, ça va, j'espère, exploser. Parce que t'es mon haut, parce que t'es mon bas, parce que sans dessus, dessous, je suis plus ton fantôme et c'est tout, parce que t'es mon seul problème et mon seul remède ici-bas, parce que t'es le poison et la cure, c'est la seule chose dont je sois sûr, tu es tout ce que j'aime, tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. On écoute.
Parce que t'es mon haut, parce que t'es mon bas. Parce que sans dessus, dessous, je suis plus qu'un fantôme et c'est tout. Parce que t'es mon seul problème, près de Siva. Parce que t'es le poison et la cure. C'est la seule chose dont je sois sûre. Tu es tout ce que j'aime.
Parce que tu es le poison et la cure, c'est la seule chose dont je sois sûr.
On est plein de dans la résilience là. Le sujet de ce matin, c'est vraiment résilience. C'est bien ça. Je pense que c'est cet amour qui essaye de trouver la solution partout. Voilà, c'est la solution malgré tout.
Mais finalement, tu es le poison et la cure. Vous parlez à la vie.
Je parle à la vie, je parle aussi des êtres humains, en fait, parce qu'on s'habitue avec le bon comme le mauvais. C'est quelque chose que j'ai appris très tôt, que nous, les êtres humains, on peut aussi s'habituer à des choses qui ne sont pas terribles et qu'on vit ça pendant longtemps et qu'on arrive même à s'attacher à des choses qui ne sont pas bien. Donc, ce titre, il parle un peu de ça, en fait, du bon et du mauvais, de tout ce qu'il y a à l'intérieur d'un couple, comment on peut faire pour... comment on vit dans la vie de tous les jours, parce que je pense qu'un couple, ça s'entretient, l'amour, ça s'entretient, la résilience, la joie, tout ça, ça s'entretient. Tout à l'heure, quand vous m'avez demandé comment je fais justement pour garder ça, pour être en joie, en résilience, bah c'est simple. J'essaie déjà d'être éternellement en gratitude. C'est quelque chose que, depuis la Grèce, je pense, on parle de ça, de déjà remercier les petites choses de la vie, de ouvrir les yeux, s'éveiller, de pouvoir respirer, tu ouvres ton robinet, t'as de l'eau, voilà, des choses simples de la vie. Moi, je m'extasie pour un morceau de fromage. Donc, à partir du moment où on est content avec de la nourriture, tout le reste, c'est un grand cadeau.
Quel fromage?
Je préfère les fromages de chèvre frais.
Mais ça pose quand même un vrai problème philosophique, ce que vous dites et avec lequel j'ai envie d'adhérer. C'est qu'en fait, on sent que vous avez envie de dire oui à la vie, à toute la vie, avec le bon et le mauvais. Mm. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a dans cette très belle chanson, « T'es mon tout », par exemple, « Parce que tu es mon seul problème et mon seul remède ici-bas », c'est « Tout est mélangé ». Mais en même temps, on a aussi entendu dans votre propos le désir de progresser. Mm-hmm. C'est-à-dire de prendre des bonnes choses, de se débarrasser des mauvaises. Au fond, il s'agit quand même de deux options existentielles différentes, voire opposées. Soit je prends tout, et la joie, c'est ça. Et la vraie joie de Spinoza, Nietzsche, Clément Rosset, vous connaissez peut-être, mm-hmm. vous avez l'air d'ailleurs, mm-hmm. bah, c'est ça. Soit les sages anciens disaient, il faut progresser. Mm. Et quelque part, c'est difficile de faire les deux en même temps.
J'ai lu Schopenhauer aussi, qui était un éternel pessimiste et qui m'a appelé beaucoup sur la joie, finalement. Je pense qu'il faut... En effet, c'est compliqué de faire la part des choses. Ouais. Mais si on arrive déjà, justement, à mettre des petites choses en place pour essayer d'être moins ronchon. Ensuite, voilà, moi, je viens d'un pays qui essaie de vivre en résilience sans arrêt pour pouvoir affronter les douleurs de la vie. Et là, je viens dans un pays où parfois être ronchon... Je viens vivre dans un pays où parfois être ronchon, c'est un sport national. C'est plaindre, etc. Donc, comment j'allais faire avec ces deux choses-là? Ben, j'essaie de m'adapter un maximum, c'est-à-dire de mettre des petits systèmes en place pour pouvoir affronter ce petit pessimisme. Après, il y a cette histoire qu'avec le temps, on devient pessimiste. En effet, on dit que plus on vieillit, plus on voit le monde, ouais, c'est moins bien qu'avant, etc. Mais c'est une phrase que j'essaie d'extirper de ma vie. J'ai pas envie d'être la boumeuse qui est là en train de dire avant c'était mieux. Non, je suis convaincue que le présent, c'est très bien.
Mais alors, quand vous êtes arrivé en France, avec cette espèce de joie solaire en vous, alors que vous veniez du Brésil, et que vous avez vu des Français en train de râler pour n'importe quoi, on pense à cette phrase de Sylvain Tesson qui a un peu fait polémique, mais je trouve quand même qu'il a un peu raison quand il dit « la France est un pays qui est un paradis dans lequel les Français se croient en enfer ». C'est vrai que quand on voit qu'il y a des gens qui vivent par moins 50 degrés, ou des gens qui vivent sous des régimes très autoritaires, comme ce fut le cas sous le Brésil de Bolsonaro, où la culture n'a pas le droit de citer, où il y a de la censure, il n'a quand même pas complètement tort, Sylvain Tesson, malgré tout.
Je pense que M. Tesson a beaucoup voyagé pour donner ce genre de déclarations. Moi, dans mon cas, en effet, je ne peux pas me plaindre de l'inverse. Mais il ne faut pas tout comparer, tout mélanger, en fait. Je pense qu'il y a des gens très malheureux ici aussi, avec tout ce qu'ils ont à portée de main. Et quand même, ça ne les rend pas heureux. Le concept de bonheur, pour moi, il va au-delà d'avoir, en fait. Pour moi, le bonheur, c'est d'être. Dans les pays plus capitalistes, le Brésil, par exemple, c'est un pays qui était occidentalisé. Donc, pour nous, le bonheur, c'est de l'avoir, c'est de posséder. Alors qu'ici, le bonheur, il est plutôt lié à l'être. Qu'est-ce que je suis, comment je me comporte, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre. Moi, pour moi, justement, j'ai dépassé cette phase-là de vouloir avoir des choses. Parce qu'avant, quand on a faim, on a envie de manger. Maintenant que j'ai de la nourriture, j'ai envie de grandir maintenant en tant qu'être humain. C'est le travail que j'essaie de faire ces 20 dernières années.
Ouais, alors là, on retrouve les progredients, les sages anciens qui veulent progresser et saisir toutes les occasions que la vie nous donne pour progresser. Flavia Coelho, vous avez beaucoup parlé d'épreuves. Je voudrais qu'on distingue un peu l'épreuve et l'échec. L'épreuve, ça nous tombe dessus. L'échec, on y a sa part. Est-ce que vous avez connu des échecs qui vous ont beaucoup nourri ?
Ouch, je n'ai connu que ça, des échecs. D'ailleurs, je ne les nomme pas des échecs. Je dis que ce sont des étapes.
Des expériences ?
Des expériences, exactement. Il n'y a pas d'échec, il y a que des tentatives. Voilà, je suis tout le temps en train de tenter, en train d'essayer. Encore aujourd'hui, je sors des albums parce que j'essaie de comprendre qui est ce personnage.
Ouais.
C'est milliers de personnages, parce que quand même, je ne suis pas qu'une seule personne, il y en a plusieurs. Donc, j'essaie de comprendre ça au fur et à mesure des années, en effet.
Vous savez, vous avez dit je tente, ce sont des tentatives. Ça me rappelle ce que disait, vous connaissez peut-être, Thomas Edison, l'inventeur.
Bien sûr, je n'étais pas en train d'échouer, j'étais en train de tenter de faire.
Ouais, c'est ça. C'est son collaborateur qui dit, mais comment ça, monsieur Edison, ça fait des milliers de fois que vous échouez, vous en pouvez. Et puis moi, je dois rester avec vous toute la nuit à essayer d'allumer cette putain d'ampoule. Et lui, il répond, mais non, j'ai pas échoué des milliers de fois, j'ai réussi des milliers de tentatives qui n'ont pas fonctionné.
C'est exactement ma philosophie, c'est ce que j'essaie de faire.
Qu'est-ce qui vous donne, au fond, vraiment confiance ? Est-ce que c'est les autres ? Est-ce que c'est de sentir en vous une énergie vitale ? Est-ce que c'est le mystère de la vie ? Est-ce que c'est le fait de progresser dans la technique musicale ? Si vous deviez on sent que vous avez une belle confiance, si vous deviez hiérarchiser ce qui vous donne vraiment confiance, vous mettriez quoi tout en haut ?
Je mettrai le travail, sans doute, parce que je suis quelqu'un qui n'a pas accès à des grandes études, à l'école, c'était pas évident, j'étais dans le service public au Brésil, c'était pas ouf, j'ai pas fait des conservatoires, j'ai pas pris des cours de chant, en fait j'étais condamnée à ne pas être la personne que je suis devenue, en fait. Tout allait à l'envers de ce que je rêvais, le milieu familial, etc., il y avait personne qui faisait de la musique, il y avait pas d'artiste, tout le monde était très très, très religieux, c'était quand je suis partie du Brésil, tout le monde disait ça y est, elle va aller dans les bois, ouais. Est-ce qu'elle va? Elle va faire des choses bizarres. Donc, tout le monde était contre ce voyage.
À quel âge vous avez quitté le Brésil?
J'ai quitté le Brésil, j'avais 26 ans. Ouais. Donc, il y avait tout qui allait contre cette idée-là. Donc, pour moi, venir ici et essayer de grandir, c'était vraiment la planche de salut, en fait. C'était ce que j'en avais besoin.
Alors, je vous propose qu'on écoute Gilberto Gil, qui a été important pour vous et qui parle justement de ce rapport entre l'art et la politique.
Il y a une compréhension au cadre de la société en général, mondiale, de la proximité entre le sujet qui appartient à la citoyenneté, à la politique, et la dimension poétique, artistique, musicale, et tout ça. Je suis toujours beaucoup intéressé dans le côté politique de la vie civile, de la société civile.
Alors j'ai choisi cet extrait de Gilberto Gil, qui est extrait de Affaires culturelles en 2021, pour revenir à la question que je voulais vous poser au début de l'émission, sur le rapport entre la joie et la politique. Je m'explique. En fait, d'un côté, on se dit, voilà, la joie est politique, parce que c'est une force de résistance, parce qu'on est ensemble, parce qu'il y a des affects qui communiquent des corps à l'autre. Mais d'un autre côté, et c'est ça que je voulais aborder avec vous avant qu'on conclue, quand j'ai la joie, je suis fort. Et quelque part, j'ai pas besoin de politique. Et même si des gens me promettent des choses, que ce soit des partis ou des religions ou des sectes, je suis pas sensible à cette promesse. Parce qu'au fond, j'ai besoin de rien. Parce que la joie me dit que ça me va, en fait. Même si le monde est pourri, il est imparfait, la joie en moi, quelque part, elle est amorale, elle est apolitique. Du coup, je balance. Vous en pensez quoi ? C'est politique ou c'est pas politique et c'est tant mieux ?
Alors, pour moi, c'est bien politique parce que, pour moi, tout est politique, en fait. Quand on grandit dans un pays comme le Brésil et qu'on doit défendre nos droits et se battre pour la moindre nourriture, pour le moindre verre d'eau, je parle des gens qui sont dans des situations très compliquées, c'est compliqué de ne pas mettre la politique là-dedans. Après, en effet, même aussi, quand on est heureux et qu'on se dit, ouais, je n'ai pas besoin de politique, non, au contraire, quand on est heureux et qu'on sort un peu de son nombril, c'est là où on va aller chercher où est-ce qu'il y a des problèmes ailleurs. Et je pense que c'est pour ça, entre autres, que j'ai choisi ce pays, de vivre ici en France. Oui. Parce que j'ai vu des gens qui se battaient pour des peuples autochtones, pour des gens voilà, qui s'intéressaient à mon pays, pour les gens qui s'intéressaient à des causes diverses et variées dans le monde entier. Donc, au contraire, quand on est heureux avec soi-même, on arrête de regarder son nombril et on commence à regarder ce qui se passe ailleurs. Donc oui, la joie est politique.
Oui, parce que ce que vous voulez dire, c'est qu'on arrête d'être dans le ressentiment, on peut avoir plus d'altruisme, penser aux autres.
Complètement. Pour moi, le but de mon aspect joyeux, c'est celui-là, c'est de sortir un petit peu de mon nombril. Parce que la dépression, la tristesse et tout ça tournent toujours autour de soi-même. Elles ne tournent jamais à cause de l'autre. On peut culpabiliser l'autre, mais la douleur, la tristesse reste quand même très solitaire. Donc quand on sort de cette étape-là, on peut se dire, bon, si tout va bien avec moi, à qui je peux aider maintenant ?
C'est ce que vous faites sur scène, de sortir de vous-même ?
C'est ce que j'essaye de faire sur scène, c'est de sortir de moi-même.
Quelle transition pour arriver au rappel incroyable. De toutes vos dates. 3 août à Agen, au Festival des Arts de la Rue. 5 août à Festival Porto Latino à Bastia. 12 août à Budapest. 22 septembre à Nîmes, Jazz à Nîmes. 11 octobre à la Fiesta des Suds à Marseille. 14 octobre, Nancy Jazz Plus Station. 12 mars, Olympia Paris, évidemment. Flavia Coelho, j'ai une dernière question. Vous êtes plutôt existentialiste ou essentialiste ? Alors, essentialiste, ça veut dire que vous avez en vous la vérité et que vous ne faites qu'exprimer ce qui est déjà en vous. Et quelque part, on a entendu un peu ça, mais en même temps, on a aussi entendu beaucoup sortir de soi. Et pour un existentialiste, on va conquérir sa valeur en sortant de soi. Alors, existentialiste ou essentialiste ?
Je ne peux pas prendre un peu de ces morts.
Si, vous pouvez.
Si,
vous aimez bien le métissage.
Ah ouais, j'aime bien le métissage, ça me correspond, ça va avec mon histoire de vie. Donc je garde un peu de dos parce qu'on n'est pas des objets uniques.
D'ailleurs, c'est tout à l'heure, on a entendu aussi cette synthèse quand on parlait de la joie ou quand on parlait même du rapport aux autres. Et il y avait cette proposition peut-être confucianiste, au fond, de réconcilier les contraires. Et peut-être que moi, je n'ai cessé de vous poser des questions un peu trop dualistes, un peu trop dichotomiques. Mais bon, on est sous le soleil de Platon, hein, le premier grand dualiste. Donc, je m'en excuse. Eh bien, Flavia Coelho, c'était vraiment très agréable de faire cette petite balade avec vous. Je rappelle que votre 5e album, Jinga, est sorti fin mai, que c'est dans ce très bel album qu'on a ce morceau Mama Santa que vous nous avez gentiment interprété en live. Et pour vous remercier d'être venu nous accompagner ce matin, je vais essayer de dégager, comme je le fais chaque matin, la philosophie de la vie qu'on a entendue. Alors, ce serait un peu facile, mais quand même, je vais le faire. C'est une Jinga philosophie. Mais on a appris ce que ça voulait dire, Jinga. Ça veut dire jeu de jambes. Alors, on pense au passement de jambes. Ça me fait penser à cette chanson de Doc Gynéco, Passement de jambes, que vous connaissez peut-être, où il y a cette fluidité. Mais en même temps, donc Jinga, je voudrais le réconcilier avec un terme allemand, Die Heiterkeit. Ça veut dire, c'est chez Nietzsche, ça veut dire la belle humeur. Ça veut dire l'allégresse de celui qui danse même au milieu des ruines. Et je propose que votre philosophie soit la réconciliation de la Jinga et de l'allégresse et de la belle humeur. On a aussi entendu quelque chose qui me fait beaucoup penser à Clément Rosset, un philosophe que vous connaissez peut-être. Si vous ne le connaissez pas, je vous recommande son livre « La force majeure ». Figurez-vous, Flavia Coelho, que la force majeure, eh bien, c'est justement la joie. Merci beaucoup Flavia Coelho de nous avoir accompagnés ce matin sous le soleil de Platon.
Brigade.
Cette émission a été préparée très bien préparée par Estelle Gap, Florence Gimalac, Audrey Carme et Laura Dumez. À la programmation musicale, Valentine Chaudebois, bravo pour ce morceau de Nino Ferrer qui a beaucoup ému Flavia Coelho. Émission réalisée par Antoine Larcher avec à la technique Guillaume Roux et Vincent Désière. Quant à moi, je vous retrouve demain matin, le cœur en joie, à 9h exactement, sous le soleil de Platon. À demain.